Question d'islam par Ghalib Bensheir. Aujourd'hui, 11 octobre 2020, ça fait 10 ans jour pour jour que la loi anti-dissimulation du visage, parce qu'il s'agit de cela, qu'elle a été promulguée. Elle est entrée en vigueur 6 mois plus tard, le 11 avril 2011, et c'est pour faire une sorte de bilan une décennie plus tard que j'ai plaisir à accueillir la sociologue Agnès Defeo. Bonjour.
Bonjour, Halem.
Bonjour, Agnès Defeo. Vous êtes sociologue, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes documentariste et vous pratiquez ce qu'on appelle la sociologie filmique. Vous filmez les sujets, pas les objets, les sujets de vos travaux et de vos recherches. Vous vous êtes intéressé très tôt à ces questions de voile intégrale, de ce qu'on appelle désormais le niqab. C'est un terme arabe que vous aurez à nous le définir. Celle qui a deux trous devant les yeux, étymologiquement, entre autres, par rapport au mot. Que deviennent-elles ces dames, ces femmes, ces demoiselles qui ont choisi de se voiler intégralement? Il y a une réelle rarification maintenant en France. Peut-être quelques pays dits musulmans aussi l'ont interdit. C'est un état des lieux, 10 ans plus tard, après une polémique, que vous êtes là pour nous le faire savoir. Pourquoi vous-même, Agnès Defeo, étiez intéressée par ce sujet?
Alors, donc ça remonte à loin, ça remonte à 2002, au début des années 2000, que je travaillais sur une minorité musulmane d'Asie du Sud-Est, et j'ai rencontré dans un tout petit village des femmes qui portaient le voile intégral. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée, parce que c'était une minorité matrilinéaire. Donc le droit passait de mère en fille, tout l'héritage était réservé aux femmes, et donc j'ai trouvé que c'était intéressant de voir ce symbole, voilà, de l'islam, on peut dire, radical, porté par des femmes qui, en principe, n'auraient peut-être pas dû le porter. Donc je me suis intéressée et c'est comme ça que j'ai découvert...
Ça paraissait paradoxal.
Oui, voilà, c'était un beau paradoxe à étudier. Et donc j'ai étudié donc quel mouvement promouvait ce voile intégral. Donc j'ai découvert que c'était le tablir en Malaisie, et donc j'ai fait de longs terrains au sein même du mouvement tablir en Malaisie, en Indonésie, et ensuite à nouveau dans le sud de la Thaïlande et au Cambodge.
Alors pourriez-vous s'il vous plaît nous dire qu'est-ce que c'est que le tablir? Déjà le terme arabe en tant que tel, et puis le mouvement lui-même.
Alors, le tablir signifie propagation, et donc c'est un mouvement qui est né dans les années 20, la fin des années 20 en Inde, qui est un mouvement de réislamisation. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que ces femmes qui portent le voile intégral sont dans une démarche de réislamisation, de retour à l'islam. Donc souvent, elles viennent de familles laïcisées qui ne pratiquaient pas, et elles vont décider de revenir à la religion en portant ce voile. Et alors petit à petit, donc j'ai travaillé sur ce sujet et je suis arrivée à travailler en France parce que mon directeur de thèse de l'époque était Michel Viviorca, et il m'a demandé de réapatrier mon sujet pour pouvoir travailler sur le phénomène en France. Donc j'ai commencé en 2008. Alors c'était vraiment très intéressant parce que c'était un phénomène très très minoritaire en France, personne n'en parlait, et j'ai pu assister justement à toute l'étape là, donc de la polémique, tout ce passage de la polémique à la loi et l'apparition de nouvelles niqabées, de nouvelles femmes portant le niqab.
C'est vous-même qui avez créé ce néologisme de niqabé ou niqabé, parce que certains ont parlé même de niqabisé, d'autres disent voilé intégralement, on ne trouve pas le mot. Quels sont les différents mots qui désignent ce voile intégral? On a entendu parler de burqa, on a parlé de niqab, de quoi encore, de tchadri, des choses comme ça.
Effectivement, le terme lui-même a mis du temps à s'imposer. Donc, c'est tout à fait le niqab, hein, le terme arabe. Mais c'est vrai qu'au tout début de la polémique, comme il fallait absolument faire adhérer la population française au projet de loi, on a sorti ce terme de burqa qui renvoyait aux talibans, donc qui n'était pas du tout le même objet porté par les femmes en France. Juste un tout petit détail, parce qu'on a parlé du tablier, mais en France, les femmes qui portent ce voile intégral n'appartiennent pas au tablier, même si le tablier promeut ce type de vêtements, de voile, elles appartiennent au mouvement salafiste. Donc oui. C'est pas tout à fait la même chose.
Donc il faudrait aussi donner la distinction entre le mouvement tablier, ce n'est pas celui qu'on traduit par foi et pratique.
Oui, donc, ça c'est le mouvement.
C'est le mouvement voilà, foi et pratique d'un côté, et de l'autre, le mot est plus connu, c'est celui du salafisme, ceux et celles qui veulent revenir à la pratique des pieux anciens.
Exactement. Bon. Et donc, par rapport au terme, donc ce terme de burqa qui renvoyait, donc en fait c'est un mot qui est utilisé au Pakistan pour désigner ce voile intégral grillagé, en général bleu ciel ou rose. Il s'appelle chadri en Afghanistan, mais burqa est aussi utilisé, je l'ai trouvé, en Inde pour désigner ce qu'on en appelle le niqab, c'est-à-dire le voile noir. Donc il y a eu une volonté de brouiller sémantiquement l'objet pour faire adhérer justement ces gens, pour dire voilà, on est devant une talibanisation de la société française.
Oui, j'ai découvert moi-même que le mot burqa, c'est ce qu'on met sur les yeux des faucons quand on commence à les dresser. C'est aussi ça désigne cela, donc davantage a priori concernant ce grillage ou ces voiles grillagées, vous les indiquez comme étant de couleur bleu pastel, bleu ciel et rose. Alors Agnès Defeo, comment se fait-il que la polémique a pris alors qu'en 2008, le problème n'avait pas encore été généralisé?
Donc c'était un phénomène vraiment tellement minoritaire que personne n'en voyait d'ailleurs. Hein, je pense que pas beaucoup, et moi j'avais beaucoup de mal d'ailleurs, puisque mon terrain s'était spécialisé sur les femmes handicapées, j'avais beaucoup de mal à en trouver, et en général elles ne voulaient pas spécialement s'exprimer. Donc j'ai pu voir, alors la polémique a commencé en juin 2009, donc avec le lancement d'une commission d'enquête qui va aboutir au vote de la loi. Et il y a eu aussi Nicolas Sarkozy qui avait déclaré « la burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire français ». Et donc là, ça va vraiment mettre le feu aux poudres. On va voir un déchaînement médiatique. Hein. On va en parler pendant un an jusqu'au vote de la loi. Donc il va y avoir cet effet incitatif pour certaines femmes de porter le niqab. Et donc c'est ça, mon travail, ça a été ça. C'était de montrer comment la loi a eu l'effet inverse de celui qui était attendu. C'est-à-dire que au lieu de supprimer le niqab par un système d'amende, ça l'a au contraire encouragé, incité. Et donc il y a des femmes qui ont commencé à porter le voile intégral au moment de la loi, même au moment de la polémique. J'ai même des exemples de femmes qui ne portaient même pas le voile simple avant de porter le niqab.
Bien. C'est à un moment donné, il va y avoir un pic, et le plus gros ou le plus grand nombre coïncide et est devenu concomitant avec la discussion à propos de la loi. Et puis là, de nos jours, vous-même dites que il y a une réelle raréfaction, pour ne pas dire quasiment une absence totale sur le territoire français. Nous verrons un peu toutes ces phases ensemble, mais il me semble que moi-même, où nous nous rappelons toujours de ce petit Margoulin de Nantes, boulanger ou boucher, qui a 4 concubines, ou une épouse et 3 maîtresses, quasi légalisées, et dont l'une d'elles a été mise à l'amende pour conduite, avec un champ de vision qui ne lui permettait pas de tout voir. Et ça a donné lieu aussi à une polémique réelle, ad nauseam, d'ailleurs, qui revenait comme ça sans cesse. Est-ce que ça coïncidait aussi avec le temps de la discussion au Parlement à propos de la loi?
Oui, voilà, je pense que ça a été un moteur. Alors, il faudrait voir, est-ce que c'est elle qui a... Mais je pense pas, je pense que la polémique avait déjà débuté quand elle a été arrêtée, mais c'est vrai que, évidemment, ça a amplifié le battage médiatique autour d'elle. Et c'est vrai qu'on croit toujours que le champ de vision est... enfin, est modifiée, en fait, non, parce que elle voit très bien, en fait. Il n'y a pas, à partir du moment où elle ne porte pas le sitar, donc il y a un voile supplémentaire que certaines, les plus puristes, mettent devant les yeux, il n'y a pas de problème pour conduire avec un niqab. D'ailleurs, la voiture est considérée comme un endroit où elle peut porter le niqab, hein. Elle ne peut pas le porter à l'extérieur de son véhicule. Mais à l'intérieur, il est toléré par la loi.
Ah, c'est curieux, ça je viens de l'apprendre, mais nul n'est censé ignorer la loi, ni se prévaloir de sa propre turpitude, selon la formule consacrée. Agnès Defeo, non seulement chez certaines puristes ou maximalistes, comme on dit, non seulement elles portent le voile intégral, elles portent encore des gants, et elles mettent au-dessus, devant les yeux, ce que vous avez appelé le sitar, une sorte de voile supplémentaire. Il est transparent celui-là, sinon elles ne verraient rien. Revenons, si vous voulez bien, à votre méthode de travail. Vous avez interrogé, vu, filmé, en tout cas discuté, vous avez eu des entretiens, dites-vous, avec 200 femmes, mais dont une centaine uniquement ont donné lieu à des consignations. Vous avez consigné par écrit et vous les avez filmées dans 8 documentaires. Leur témoignage.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, donc, au départ, mes entretiens auraient dû être uniquement par écrit. Je ne pensais pas les filmer au tout début. Mais devant l'incompréhension des gens qui m'entouraient, je commençais à faire des séminaires, à participer à des séminaires, à exposer mes recherches. Les gens me disaient que j'inventais ces histoires, que c'était pas vrai, que les femmes, je n'avais pas compris leur motivation, que c'était des femmes qui étaient soumises, hein. C'est toujours les mêmes adjectifs qui reviennent, hein, pour qualifier ces femmes. Et donc, devant l'incompréhension, mais qui était totale, j'ai décidé de les filmer. Et comme ça me permettait de montrer la preuve de ce que j'avançais. Et on voyait par leur voix, hein, évidemment on ne voyait pas leur visage, mais on voyait par leur voix leur détermination. Aussi le fait qu'elles étaient parfaitement francophones, ça aussi c'était quelque chose que les gens ne pouvaient pas imaginer, que ça puisse être des femmes qui étaient nées en France. Et quand je leur expliquais que c'était non seulement des femmes nées en France, mais qui avaient été élevées dans la laïcité la plus totale, avec des parents qui avaient refoulé leur héritage religieux, donc c'était vraiment une démarche de réislamisation, là c'était pareil, c'était l'incompréhension totale. Et je pense que c'est ça qui dérange.
Alors, non seulement elles étaient quasiment toutes, j'ajoute le quasiment par précaution, c'est vous qui allez le confirmer, toutes françaises, citoyennes françaises, mais elles étaient toutes, cette fois-ci, francophones, totalement. Donc, en dehors d'une ou deux, une marocaine, à qui on avait d'ailleurs refusé l'accès à la citoyenneté, les autres étaient citoyennes françaises, et donc, encore une fois, totalement francophones.
Tout à fait, bien sûr. Donc parfaitement francophone, et puis surtout qui avait été élevé, éduqué dans les écoles de la République. C'est ça qui est très intéressant. Et sans apport de la religion. Elles ont découvert la religion sur le tard. Et justement, grâce ou avec ces mouvements de réislamisation qui sont le salafisme ou le tablir.
Oui, vous êtes allé vous-même, parfois accompagné, mais sinon plus souvent seul, dans cette mosquée du 11e arrondissement de Paris, celle de la rue Jean-Pierre Timbaud, allez, je la nomme, pour que vous vous intéressiez en observatrice à ce qui s'y passe, et notamment auprès des jeunes femmes.
Oui, ça c'est ma fréquentation des mosquées est très importante parce que j'ai besoin d'avoir leur confiance et de les aborder dans un cadre connu et ne pas les agresser parce que souvent donc elles sont extrêmement agressées sur la voie publique par des passants, par des quidam lambda et donc c'est vrai que le fait d'arriver dans une mosquée, de pouvoir discuter pacifiquement avec ces femmes, ça les rassure et c'est comme ça qu'elles me parlent de leur vie parce que ça a été un gros travail aussi, hein. Vous avez vu, vous avez parlé du chiffre de mes entretiens, des femmes interviewées, mais elles totalisent pour certaines une centaine d'entretiens. C'est-à-dire que pour certaines, je les connais depuis 2010. Je les ai suivies pendant tout leur parcours, du début du port du niqab jusqu'à leur abandon récemment. Beaucoup l'ont enlevé en 2017-2018. Ça a été vraiment une date.
C'est là aussi la quasi-totalité a abandonné le dit voile. Certaines sont parties, nous le verrons tout à l'heure, en Syrie. D'autres ont même abjuré l'islam, donc c'est une totale apostasie. Votre approche est à la fois sociologique, et vous avez fait une réelle sociographie. Nous verrons tout à l'heure d'où viennent-elles. Donc c'est une approche sociologique, mais surtout, moi-même, je suis admiratif devant ce que vous avez fait, une approche aussi psychologique.
Oui, parce que finalement, au bout d'un moment, on les connaît tellement bien. Moi, je les connais tellement bien, ces femmes, parce que je suis au courant de toute leur intimité, de leur vie privée. Elles finissent par tout me raconter parce que j'étais presque devenue une amie pour elles, une confidente. C'est un petit peu ce que je voulais. C'était le. En fait, moi, j'aime beaucoup travailler dans l'intimité. Je travaille dans la sociologie de l'intime parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à connaître les motivations profondes. Et effectivement, voilà, c'est le. C'est un petit peu psychologique, je peux faire des descriptions d'elle, de ce qu'elle pense, et je pense que c'est ça qui est important, et c'est là où je me dis, à chaque fois, tous les gens qui les cataloguent comme des femmes soumises, ou alors qui les renvoient des caricatures, je me dis, c'est quand même vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus d'imagination, en fait, de volonté de les connaître, hein, afin de voilà, c'est un petit peu ce à quoi se destine le livre, c'est de permettre aux gens qui ne connaissent rien au phénomène, mais qui sont quand même curieux, bien, de comprendre des femmes qui ont fait un choix de vie paradoxal et qui ne correspondent pas du tout à l'image qu'on peut avoir des femmes très religieuses.
Alors, un choix de vie paradoxal circonscrit dans le temps, si je puis dire momentané. Pour certaines d'entre elles, avant la loi, ça datait de quelques années, 2 ou 3 années. Peut-être les amendes, on verra tout à l'heure qu'il y avait un hurluberlu qui les payait pour elles, certes, mais finalement, tout cela s'est amenuisé un peu dans le temps.
En fait, c'est comme une mode. Moi, j'ai eu l'impression de suivre une mode passagère qui a duré un peu moins de 10 ans et qui s'est effacée, mais qui a laissé beaucoup de ressentiments. Parce que donc ces femmes ont été obligées d'abandonner le niqab sous la pression populaire, sous la pression de la loi, avec les policiers qui les harcelaient, ou alors bon qui leur mettaient des amendes, mais qui leur mettaient des amendes de manière brutale, en leur parlant très violemment, et donc elles ont été contraintes de l'abandonner. Et je pense que voilà, mais c'était un phénomène de mode qui a disparu, qui pourra revenir et qui aujourd'hui se maintient quand même. Vous avez vu avec le masque chirurgical.
Oui. Oui. En disant que c'est une sorte de revanche, en disant que les amendes leur ont été adressées, elles étaient verbalisées parfois d'une manière brutale. Il y a une certaine Stéphanie ou Sandrine, je ne me rappelle plus laquelle des deux, qui disait qu'elle a été verbalisée 3 fois en une journée.
Oui, alors voilà, c'est Stéphanie. Donc, elle habite à Nice. Donc, c'est Nice qui a eu le plus de verbalisation de femmes en niqab. Donc, vraiment, la police ne lésinait pas là-dessus. Et donc, elle m'a dit, parce que je l'ai eu récemment au téléphone, qu'elle gardait toujours le niqab, qu'elle le portait toujours.
Et donc, au risque d'être verbalisée toujours.
Voilà, au risque d'être verbalisée pour elle, c'est une vocation de porter le niqab, elle ne veut pas renoncer devant la loi. Et alors aujourd'hui, ce qu'il faudrait voir, ça il faudrait que je lui demande, est-ce qu'elle en a moins depuis l'obligation du port du masque chirurgical ? Est-ce que les policiers trouvent un moyen juridique de la verbaliser alors que la dissimulation du visage est devenue obligatoire? Vous voyez, il faudrait se poser la question.
Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons des 10 ans de la loi dite anti-burqa, même si elle ne s'appelle pas comme ça. Elle est contre la dissimulation du visage dans l'espace public, avec la sociologue Agnès de Feo, qui est aussi documentariste et qui pratique la sociologie filmique. Agnès de Feo, est-ce que vous pensez, bon, ça revient au législateur dans toute sa sagesse, que c'était nécessaire de légiférer? À ma connaissance, je le dis simplement comme citoyen, il eût mieux valu peut-être de décréter ou de laisser la possibilité au premier magistrat des villes de dire qu'en dehors de cas et de temps particuliers, exceptionnels, c'est-à-dire le carnaval, la République se vit à visage découvert.
Oui, alors je pense que la loi et surtout le battage médiatique qui a été fait autour de la loi a eu un effet contre-productif. Parce que ça a incité des femmes à porter le niqab, qu'ils n'y avaient jamais pensé avant. Et d'ailleurs, elles sont très nombreuses à le dire. Donc c'est pour ça, moi, je fais une petite typologie de ces femmes. Donc, deux typologies. D'abord, celles qui le portent en fonction de leur âge et en fonction du vécu qu'elles ont pu avoir avec les hommes. Donc il y a celles qui sont très jeunes, qui n'ont jamais eu d'aventure avec les hommes et qui veulent comme ça parfaire leur image de femmes religieuses. Et celles qui ont eu des problèmes, enfin qui ont été, j'appelle ça des multidivorcées, et qui veulent ainsi montrer qu'elles sont pieuses et retrouver facilement un mari.
Parmi les salafistes.
Voilà, un mari salafiste. Et d'ailleurs, beaucoup sont partis en Syrie dans cet espoir-là aussi. Hein. Elles ont fait des mariages avant de partir, hein, afin de trouver l'homme idéal dont elles rêvaient. Et d'autres femmes qui sont un peu plus âgées, bon, pour d'autres raisons. Et il y a une autre typologie qui est celle qui l'ont mis avant la loi et les autres après la loi. Et donc là, il y a une vraie, réelle différence entre ces deux groupes. Celles qui l'ont mis avant la loi sont vraiment dans une démarche piétiste, religieuse. Elles connaissent bien la religion, elles sont vraiment très mystiques presque. Elles sont dans une démarche d'ascèse personnelle. Et celles qui l'ont portée après la loi sont dans une démarche de vengeance, de revanche plutôt, pardon, de revanche par rapport à la société. Et elles veulent montrer que, voilà, c'est un peu le retournement du stigmate. Elles sentent que les musulmans sont stigmatisés par rapport au niqab, donc elles veulent l'affirmer, elles le portent en montrant qu'elles sont plus fortes que la loi. Et donc que leur identité musulmane est plus forte. Et donc là, c'est là où on voit des femmes qui ne sont pas forcément très religieuses. Et j'en ai même qui ne savaient même pas lire l'arabe, donc qui lisaient par exemple le Coran en phonétique.
Sans rien comprendre.
Voilà, sans rien comprendre.
Alors dans cette typologie, j'ai été surpris moi-même, peut-être que vous avez une explication, quand j'ai découvert qu'il y a une surreprésentation d'esthéticiennes. C'est curieux, sur la centaine, on a une bonne partie, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais cette surreprésentation au-delà de majorité d'esthéticiennes donne une indication.
Oui, alors pareil, ça a été une très grande surprise que je n'aurais jamais imaginée. Hein, j'aurais jamais pu faire une telle hypothèse avant de faire du terrain. Donc effectivement, beaucoup ont un passé d'esthéticienne qu'elles ont abandonné. Alors donc, il y a plusieurs interprétations. Donc il y a cet attachement à l'apparence, hein, et c'est ce qu'elles cherchent encore en portant le niqab. Hein. Beaucoup portent le niqab pour être vues, hein, pour se montrer comme de très bonnes religieuses. Donc elles ont cette démarche un peu d'exhibition d'elles-mêmes. Donc il y a ces femmes qui étaient avant dans cette volonté d'exhiber leur corps, mais pas du tout de manière religieuse, et qui vont à un moment donné voir que peut-être la carrière qu'elles espéraient faire finalement est compromise, et le niqab leur offre une belle porte de sortie, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir sortir dignement de cette difficulté, parce que beaucoup ont été déçus par rapport à ces injonctions à l'apparence.
Oui, et elles sont toutes converties au sens où soit elles viennent pour la première fois à l'islam, donc elles sont islamisées pour la première fois, ou d'autres qui redécouvrent l'islam parce que leurs parents ne leur ont pas donné une éducation religieuse. Donc dans tous les cas, c'est une sorte d'islamisation première.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on peut parler aussi de réislamisation pour celles qui sont d'origine musulmane et de conversion à cet islam rigoriste pour celles qui viennent. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que toutes viennent de familles qui ne sont pas religieuses. Que ce soit les convertis, donc qui viennent de familles françaises depuis très longtemps, depuis plusieurs générations, les parents sont complètement athées, très souvent athées, et aussi très souvent islamophobes. Alors c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'elle disait, mes parents critiquaient tout le temps l'islam, avaient la haine de l'islam, j'ai entendu que des choses horribles sur l'islam, et comme par hasard, au sortir de l'adolescence, elles choisissent le symbole le plus flagrant, enfin le plus marquant, pour créer la rupture avec les parents. Donc là aussi, on trouve chez ces femmes une volonté de revanche par rapport à leur famille, à leurs parents. Donc elles veulent montrer, voilà, que elles sont plus fortes que les parents, que la société, que la famille. Et donc c'est pour ça que quand les gens disent que ce sont des femmes soumises, moi je dis c'est vraiment exactement le contraire, ce sont des femmes complètement insoumises.
Oui, il y a le cas aussi de celles qui en pâtit d'un père tyrannique, d'un frère violent. Et il y a une manière de s'y réfugier, je ne sais pas si c'est le cas, ou en tout cas de les embêter, pour ne pas dire un autre mot. Parce que les parents, le père ou le frère, n'étaient pas dans une démarche religieuse.
Tout à fait. Et pareil, autant...
Je parle de ceux qui étaient de culture, comme on dit maintenant, musulmane.
Alors, celles qui étaient de culture musulmane, mais aussi celles qui étaient de françaises de plusieurs générations, beaucoup sont des pères, effectivement, qui incarnent l'autorité. Et j'ai beaucoup de filles de commissaires de police, de militaires...
De gendarmes, et même d'un haut fonctionnaire à la préfecture de police.
Exactement. Et donc là aussi, on peut interpréter leur démarche comme une volonté contre le père, évidemment. Bien. De revanche contre le père.
J'ai été surpris aussi de découvrir que le plus souvent, certaines d'entre elles, en tout cas, recevaient leur... injonctions, leurs instructions via Internet uniquement. Le cheikh en question, le mentor ou le guide n'apparaissait pas.
Oui, elles s'alimentent en fait, leur source première, c'est souvent, très souvent Internet pour les salafistes. Et effectivement, elles vont suivre et elles vont avoir l'impression aussi de découvrir cette injonction, cette obligation du niqab par elles-mêmes. Donc elles disent beaucoup qu'elles ont fait la prière de consultation, qu'elles se sont posées des questions, et elles vont décider, comme ça, un beau jour, de porter le niqab. Et je dis toujours aussi que finalement, elles portent le niqab parce que ça leur apporte des avantages. Donc pour ces esthéticiennes qui n'ont pas réussi à faire carrière, ou qui n'ont pas la beauté suffisante pour faire la carrière d'actrice ou de mannequin, beaucoup voulaient devenir mannequin. Ça, c'est quelque chose que je retrouve très souvent. Et donc, ce niqab, c'est une façon aussi d'échapper à cette injonction française de montrer la beauté, d'avoir certaines normes de beauté, et notamment sur le corps. Et ça, c'est quelque chose qu'elle... Comment on pourrait dire sur lequel, voilà, elle déroge. Et pour échapper à cela, pour échapper aux injonctions esthétiques, elles ont trouvé cette porte de sortie.
Alors, à un moment, vous dites, ce que m'avait semblé être oxymorique, qu'elles sont à la recherche du prince charmant salafiste. Et je m'étais dit, un prince charmant auquel on accole l'épithète salafiste, c'est peut-être un oxymore. Mais en tout cas, elles étaient à la recherche de ce prince charmant.
Oui, parce que souvent, elles ont eu de très mauvaises expériences avec des hommes. Alors, il y a aussi une constante chez ces femmes, c'est qu'elles sont à la recherche d'un homme viril. Voilà. Et beaucoup se sont mariées, ou alors ont fait des mariages religieux avec des trafiquants de drogue. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez original. Donc c'était des esthéticiennes qui voulaient absolument un homme fort, qui puisse...
Les protéger,
voilà. Et donc, bon, évidemment, ça s'est mal passé, parce que je pense qu'avec des trafiquants qui ont fait beaucoup de prison, beaucoup, beaucoup de ces femmes ont eu des relations avec des prisonniers. C'est surreprésenté aussi chez ces femmes.
Et puis, certaines d'entre elles ont des enfants de pères différents.
Oui, exactement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir. J'ai même des femmes qui peuvent avoir trois enfants de trois pères différents. Ou alors trois ou quatre enfants de deux pères différents. Et donc, qui sont absolument instables. C'est le cas, par exemple, d'Emilie Koenig, donc, qui a été arrêtée, qui avait deux enfants de deux pères différents, avec qui ça s'était mal passé. Il y en avait un qui avait fait, justement, qui était emprisonné pour trafic de drogue. Donc, on a des femmes qui ont ce modèle d'homme viril. Et alors, donc, comme elles ont vécu des terrible souffrance par rapport à ces hommes, elle cherche l'homme idéal.
Et très à supposer, pardon, que la virilité soit synonyme de faire de la prison pour trafic de drogue. Bien. Je vous ai interrompu.
Je suis d'accord avec vous, mais en fait, c'est-à-dire quand on parle avec elle, elles me disent, voilà, je ne comprends pas, j'étais avec un mec gentil, et je ne suis pas restée avec lui, moi il m'a fallu un dur. Moi j'étais à la recherche d'hommes durs, d'hommes virils. À chaque fois elles ont cette expression d'homme viril, et donc elles vont chercher, donc c'est aussi les raisons pour lesquelles certaines sont parties en Syrie dans l'espoir de rencontrer ce combattant, cette image du combattant parfait musulman. Alors là aussi, hein, il faut faire très attention, parce que ce sont les femmes qui se sont ralliées après à l'idéologie djihadiste, ce qu'elles n'étaient pas forcément au départ, hein, parce que la plupart des femmes qui portent le niqab étaient absolument piétistes.
Oui, et vous préférez le terme piétiste ou le piétisme que le salafisme quiétiste, en disant que le quiétisme, ça remonte à Fénelon, hein. Le signe de Cambrai, et nous savons bien que dans l'histoire, c'est l'aigle de Maubossuet qui est finalement a triomphé de cette question de quiétisme. Cher à Fénelon, Agnès de Féau, est-ce que, sans vouloir faire de, pour ma part en tout cas, de la psychologie de bazar, pourrions-nous dire que certaines d'entre elles étaient androphobes, ayant peur des hommes, certaines sont même misandres, elles les détestent, et ce serait, c'est vraiment une question que je vous pose, une forme de scarification morale, en quelque sorte, de porter quelque chose qui, finalement, joue comme un repoussoir.
Bravo pour cette interprétation. Je n'avais pas trouvé ce mot de scarification. C'est très intéressant. Donc, effectivement, donc on a vu celles qui étaient attirées par les hommes virils, forts, mais aussi celles qui détestent les hommes et donc qui ont très peur. Alors, beaucoup aussi, il y a de nombreuses femmes qui ont été violées et donc qui ont ce rapport aux hommes de méfiance. J'en ai vu des fois qui étaient tétanisées à l'approche d'un homme et donc qui trouvaient dans ce niqab une seconde peau, une espèce de carapace de protection. Donc, effectivement, de parler de scarification, de repoussoir des hommes, c'est tout à fait judicieux, c'est très intéressant. Et c'est là où je me dis aussi que l'intolérance, en fait, du public, qui les catalogue comme des femmes soumises ou des femmes aliénées, je me dis, ne prend pas en compte, justement, toutes ces femmes qui ont pu avoir des blessures narcissiques faites par des hommes et qui ont besoin justement de se retrouver une identité ou alors de se retrouver une protection par le niqab. Alors aussi quelque chose qui est très important à signaler, c'est que la majorité aussi de ces femmes sont célibataires. Elles vivent seules. Donc c'est contre-intuitif.
Oui. Est-ce que il y a aussi de l'autre côté ce que nous appelons depuis un moment maintenant la psychologie sociale ou la psyché collective? C'est vrai que du jour au lendemain, ou en l'espace de quelques mois, ou de très réduit d'années, voir ces femmes, on les a appelées des belphégores, des fantômes noirs, que sais-je encore, ça jouait aussi sur une peur collective du public, cette fois-ci de la société d'une manière générale.
Alors,
est-ce qu'il ne fallait pas, si je puis dire, compatir aussi au reste de la société qui a eu peur?
Alors oui, on peut recevoir cet argument, mais d'après leur témoignage, ce qu'elles disent, c'est que avant, pour celles qui le portaient avant la polémique, elles disent avant, personne ne leur disait rien. Et donc c'est à partir du moment où la polémique est née que les choses se sont embrasées et que les gens se sont sentis en droit de les insulter par exemple ou de manifester leur désapprobation en leur présence, de même de les agresser physiquement. Donc voilà, je pense aussi qu'il faut plutôt détourner le regard si jamais les gens ont peur ou se sentent mal à l'aise par rapport à ces femmes. Et la réaction violente de ce public n'a fait que radicaliser certaines de ces femmes. Et c'est ce que j'ai pu observer. Donc, ce sont des femmes au départ qui avaient une démarche, on peut dire, inoffensive. C'est-à-dire qu'elles cherchaient une façon pour elles de mieux vivre et toutes le disent, quand elles ont commencé à porter le voile, elles se sentaient beaucoup mieux dans leur corps. Donc ça aussi, c'est à recevoir, c'est aussi à entendre, parce qu'elles sont dans une société où justement les injonctions à la beauté sont tellement fortes qu'elles se sentent mal. Et donc ça déjà, c'était quelque chose d'important à signaler, ce bien-être qu'elles ont pu ressentir. Et le problème, c'est que les insultes qu'elles ont pu recevoir, les agressions qu'elles ont pu recevoir, ont pu les amener à se radicaliser. À se radicaliser et donc à choisir, à être contre la société, à vouloir en découdre. Et donc, celles qui ont pu partir en Syrie, par exemple, c'était dans une démarche de revanche. Et d'ailleurs, la plupart des femmes que je connais qui sont parties en Syrie ne portaient pas le niqab avant la loi. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un effet direct de la loi sur le choix de ces femmes de porter le niqab, de se radicaliser, et petit à petit, de se radicaliser, de partir en Syrie. Donc la loi a eu un effet incitatif et absolument contre-productif.
Aujourd'hui et à l'occasion des 10 ans de la loi contre la dissimulation du visage dans l'espace public, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'autres l'appellent la loi anti-burqa, anti-niqab. Nous parlons avec Agnès Defeo, sociologue, documentariste, pratiquant la sociologie filmique. Vous avez réalisé, Agnès Defeo, au moins 8 films, 8 documentaires à ce sujet. Et donc vous avez une analyse objective de ces femmes sujets, parce que vous dites qu'on les a toutes réduites à être un objet, même un tissu. Vous nous avez fait découvrir des choses que nous ne connaissions pas. Surtout cette surreprésentation d'esthéticiennes dans l'échantillon que vous avez étudié, 100 sur 200 contactés, et au pic de la crise, parce que c'était une crise, il y avait entre 350 et 1000.
Alors,
et on a fait une loi pour ça.
Oui, c'est ça. Donc, au moment de la polémique, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais en fait, les services de police avaient évaluer les femmes qui portaient le niqab entre 350 et 2000. Voilà, donc c'était à peu près cette fourchette.
D'accord.
Et le problème, c'est qu'on pouvait pas non plus le savoir, parce que bon, on pouvait aller aux abords des mosquées pour les compter, mais le problème, c'est que certaines portaient le niqab seulement pour aller à la mosquée et l'enlever après, donc c'était vraiment très difficile à quantifier. Et moi-même, je n'ai jamais pu avoir une idée, comme je travaille sur le qualitatif, vous voyez, je n' ai pas du tout d'idée du nombre de femmes qui portent le niqab. Et des fois, ça peut être un épisode très bref dans sa vie. Et très souvent, elles vont porter le niqab, elles vont trouver un homme qui n'aime pas le niqab et elles vont l'enlever. Parce que très souvent, les maris n'aiment pas le niqab. C'est extrêmement rare les hommes qui acceptent que leur femme porte le niqab. Il y a même des femmes qui m'ont dit avoir divorcé parce que leur mari ne supportait pas.
Oui, alors il y a le cas de cette... Je ne me rappelle plus de son prénom, vous les connaissez toutes par leur prénom. Celles qui sont rendues publiques, vous dites lesquelles, comme Emily Koenig, comme Stéphanie, comme Sandrine, comme Luisa. Mais il y a celle qui a épousé un jeune homme de 23 ans, elle avait 14 ans de plus que lui, et elle ne l'avait pas supporté au bout de 2 semaines, et elle l'a répudié, donc c'est elle qui l'a mis dehors.
Oui, alors elle, c'est vraiment le cas peut-être le plus intéressant, parce que elle est passée du salafisme le plus intransigeant, parce que elle était dans le groupe Forsan Aliza. Donc, il y a été un groupe qui est né aussi de cette loi, qui a beaucoup milité contre la loi.
Les Cavaliers de la Fierté, c'est un groupe violent qui a été dissous, sur ordre de Claude Guéant d'ailleurs.
En 2012.
Oui.
Et donc, elle appartenait à ce groupe. Elle était même la femme, au sens religieux, du porte-parole. Hein, donc, elle était très, très militante. C'est quelqu'un que je connais jusqu'à aujourd'hui, hein, et qui a enlevé le niqab, qui a répudié non seulement le voile, mais petit à petit, ça a été une évolution, et répudié l'islam. Et aujourd'hui, elle est dans une démarche très spiritualiste. Elle se dit chamane, elle est dans une recherche. Donc, vous voyez, c'est souvent des femmes qui sont en recherche de quelque chose, d'une spiritualité, qui puisse leur donner satisfaction.
Cette femme était donc l'épouse ou son premier mari ou un de ses premiers maris, parce que maintenant on ne sait plus le nombre de maris qu'elles peuvent ou le nombre de mariages qu'elles peuvent contracter. C'est quelqu'un qui finalement a été emprisonné, condamné pour trouble à l'ordre public. C'est lui qui a fait un auto-da-fé du code pénal.
Alors voilà, alors la femme de Mohamed Achablan, donc elle n'était pas la femme de Mohamed Achablan, c'était le porte-parole.
C'était le porte-parole,
voilà.
D'accord.
Mais la femme de Mohamed Achablan, je l'ai côtoyée un petit peu, mais malheureusement, j'ai pas réussi à...
Qui avait un nom d'une série américaine, et puis il a plutôt préféré, un surnom je veux dire, ou un sobriquet, puis il a préféré avoir un nom en Abu Hamza, pour que ça fasse un peu plus islamique.
Oui, alors c'est intéressant parce que justement, il se faisait appeler Cortex.
C'était voilà, Cortex.
Cortex,
voilà.
Vous voyez. Donc, à quel point, voilà. Et donc, cette femme qui a appartenu à ce groupe disait, voilà, c'était vraiment des guignols. Et je me demande à chaque fois si on ne surestime pas la dangerosité de ces groupes. Parce que très souvent, ce sont des groupes qui veulent en découdre avec la société, voilà, qui veulent faire des événements spectaculaires comme brûler le code pénal. Et donc, ça a scandalisé tout le monde. Alors que bon, il fallait remettre les choses à leur place. Quoi. C'était sur une place d'Aubervilliers et d'Aulnay-sous-Bois, pardon. Et voilà, donc on a surinvesti symboliquement leurs gestes, hein, et je pense que c'est dommage en fait. Et c'est pour ça, moi, mon travail, c'est de désislamiser le voile, désislamiser le niqab, et de se dire que ce sont des phénomènes de mode, ce sont des phénomènes de post-adolescentes qui ont envie d'en découdre avec leurs parents, qui ont envie de faire.
Oui, mais Agnès Defeo, nous ne pourrions pas dire qu'en dépit de leur indigence intellectuelle ou leur maigre connaissance, voire inexistante connaissance théologique, elles ne trouvent pas des fondements de pensée religieuse dans ce qu'elles font. En tout cas, c'est ce qui est perçu par le reste de la société, musulmans ou non-musulmans confondus.
Ah bien sûr, moi je pense qu'elles sont tout à fait sincères dans leur démarche, hein. C'est-à-dire qu'elles n'investissent pas, peut-être à mon sens, hein, la religion, c'est-à-dire qu'elles ne s'investissent pas du tout dans l'étude de la religion, et elles pensent peut-être que l'apparence suffit à les identifier comme musulmanes. Mais cela dit, elles sont sincères, elles croient vraiment en Dieu, elles font leurs prières, elles ont le sentiment d'être de parfaites musulmanes, et de le faire pour Dieu, donc elles sont vraiment dans cette démarche-là, il y a aucun problème, hein. Je pense pas que ce soit des tartuffes, mais il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'il faut le voir aussi comme un phénomène une volonté d'en découdre peut-être avec la société, d'exister, de se différencier. Vous voyez, tous ces phénomènes qui sont propres à nos sociétés modernes. Et c'est pour ça que le niqab est vraiment un objet de la société moderne et non pas une tradition.
Hein, ça aussi. Et celles qui sont passées à l'acte, en tout cas, ou qui étaient la compagne de terroristes convaincus, Hayat Boumediene n'était pas voilée intégralement, et Inas Madani et sa comparse qui avaient voulu faire exploser en tout cas une bonbonne de gaz pas loin du parvis de Notre-Dame n'étaient pas des jeunes femmes voilées.
Alors, pour Hayat Boumediene, elle était voilée.
Elle l'avait mis après coup.
Voilà, après coup. Et elle l'a mis quand même 2 ans avant la loi. Donc, elle ne vient pas de ces femmes qui l'ont mis, après la loi.
Parce que nous la voyons sur certaines images, je crois que c'était à Saint-Domingue ou ailleurs, en bikini.
Oui, donc là, vous voyez un petit peu, et toutes ces femmes, donc c'est encore une de ces femmes qui viennent d'un milieu dont on ne soupçonnerait pas qu'il est religieux, vous voyez, rien ne les prédisposait à cette religiosité extrême. Donc c'est quelque chose, quelque part, une déception qu'elles ont pu connaître à un certain moment de leur vie qui les a fait complètement changer de bord. Elles étaient dans l'apparence, dans la frivolité. D'ailleurs, elles l'expriment très bien. Elles disent, voilà, avant, moi, je m'habillais, je fumais. Alors même, certaines se pouvaient prendre de la drogue, boire. Donc, elles étaient comme des jeunes filles de leur âge, dans le sens de liberté totale. Et elles vont voir qu'elles sont dans une espèce d'impasse dans leur vie. Et elles vont vouloir changer radicalement, dans l'espoir de refaire leur vie. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Une fois, une psychanalyste m'avait dit, c'est comme une page blanche sur laquelle elles veulent réécrire leur histoire. Donc elles veulent refaire leur vie par ce niqab, remettre les compteurs à zéro.
Alors, là aussi, je me garderai encore une fois de faire de la psychologie, encore moins de la psychologie féminine. Il y a comme un atavisme féminin de vouloir plaire, donc certaines d'entre elles mettent du colle dans leurs yeux parce qu'il n'y a que cette partie de leur corps qui apparaît. Donc elles veulent plaire par le regard.
Ça, c'est très intéressant. Et effectivement, il y a quand même deux groupes aussi dans les niqabés.
Oui, il y a celles qui ne se maquillent pas du tout.
Ah oui, il y a celles qui ne se maquillent pas du tout et celles qui vont effectivement se maquiller, même mettre du rimmel sur les cils, du kohl, et qui vont vraiment énormément soigner leur regard. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des femmes qui portent le djilbab. Donc le djilbab, qui est le costume, en général, ne se maquille pas du tout.
Enfin, un grand voile ample comme ça, c'est ce que vous appelez le djilbab. Celles-là, elles sont plutôt dans une logique d'amoindrir les attributs féminins.
Voilà.
Elles font disparaître. Les faire disparaître.
Les formes. C'est un petit peu la même chose avec le niqab. Mais le niqab, certaines se permettent justement ce maquillage des yeux. Donc, vous voyez, donc les autres, celles qui ne se maquillent pas, les trouvent hypocrites. Donc, il y a des dissensions entre niqabés.
Et dans les mosquées ou ailleurs, vous dites qu'il y a une réelle dichotomie entre celles qui portent le niqab, ce voile intégral, et celles qui portent le voile tout court, et elles ne se parlent pas ou elles ne se mélangent pas. C'est comme si les secondes se méfient des premières.
Voilà, alors c'est pas tellement par rapport à ce voile. La division, c'est celles qui viennent des pays musulmans, par exemple les primo-arrivantes, ou alors celles qui ont eu une éducation vraiment religieuse, donc qui ont des parents musulmans qui sont allés à la mosquée depuis l'enfance, donc qui n'ont pas besoin de revendiquer leur islamité par un costume, ce costume international qui est le djilbab avec ou sans niqab, parce que le niqab, c'est juste un tout petit voile qu'elles mettent, qu'elles nouent autour du front, en plus du djilbab. Hein.
Encore une fois, le djilbab, pour nos chers amis auditeurs, c'est ce voile ample, noir, qui couvre la totalité du corps.
Pas forcément. Il peut être aussi de couleur sombre, et il est d'une ou deux pièces. Et donc, ça donne vraiment cette impression très majestueuse aussi à ces femmes. Et donc, la division dans les mosquées, c'est plutôt entre ces femmes qui n'ont pas de problème avec leur islamité, qui n'ont pas besoin de la prouver, donc qui ont un voile simple, des vêtements de couleur assortie, qui sont tout à fait originales, c'est-à-dire qu'elles font ce qu'elles veulent de leurs vêtements, et les autres qui ont besoin de signifier à la société qu'elles sont de pures salafistes et qui vont mettre ce vêtement uniformisé où il n'y a rien qui puisse transparaître de leur personnalité. Hein, leur personnalité n'apparaît pas dans ce vêtement.
Peut-être une dernière question sur ce point précis de la sexualisation ou l'érotisation du corps féminin. Je crois que l'une d'elles vous avait dit « Mettez-le et vous allez voir, tous les hommes vont fantasmer, vont penser nécessairement que nous sommes toutes des belles femmes ».
Alors oui, ça a été le déclic en fait pour mon intérêt, pour m'intéresser à ce sujet. C'était en 2004, donc quand j'étais en Malaisie dans le tablier, j'ai voulu le porter aussi pour savoir, pour connaître la sensation. Elle m'avait dit, tu vas voir, les hommes vont imaginer que tu es très belle. Et là aussi, pour moi, c'est très intéressant parce que ça veut dire que ces femmes-là sécrètent en fait un mystère sur leur visage, et donc font imaginer, et effectivement, c'est aussi quelque chose qui me surprend toujours quand je rencontre une de ces femmes et quand elle enlève le niqab devant moi, quand on est chez elle, par exemple, qu'on commence un entretien, et je suis toujours surprise par son apparence physique, que j'imaginais beaucoup plus belle. En fait, c'est-à-dire qu'on fantasme sur la personne quand on ne voit pas son visage. Et donc, je pense que certaines d'entre elles connaissent, hein, ont tout à fait conscience de l'effet qu'elles peuvent provoquer sur le fantasme masculin.
Oui, alors il y a tout le débat récent en contexte islamique sur comment se fait-il qu'au temps fort de la spiritualité islamique, au moment du pèlerinage et au moment des circumambulations autour de la demeure sacrée, la Kaaba, ce temple vêtu de noir, hommes et femmes sont tenus d'accomplir pèlerinage à visage découvert et qu'ailleurs on le met. Alors elle rétorque que si elle ne devait pas le mettre, c'est qu'elle pouvait le mettre avant. Enfin, il y a tout le débat là-dessus. Il y a celles qui enlevaient le voile intégral et n'en portaient qu'un voile classique désormais. Celles qui enlevaient carrément le voile. Et il y a celles qui, si on va crescendo comme ça, ou décrescendo selon... Et à celles qui ne sont plus musulmanes.
Voilà. D'accord. Donc là, ça, c'était celles qui ont commencé à porter le voile intégral au moment de la loi. Et qui se sont même, certaines, converties à l'islam au moment de la loi et qui ont porté le voile intégral tout de suite. Donc là, on voyait bien qu'il y avait un effet de mode. Et que l'interdit du niqab a créé sa propre transgression. Beaucoup ont été attirés par cet objet transgressif qui leur a apporté tellement pour se distinguer de la société, pour affirmer leur originalité. Et donc ces femmes-là, en général, sont sorties, hein, c'est celles qui sont sorties du niqab et qui ont pu sortir de l'islam par la même occasion, puisqu'elles s'étaient converties à ce moment-là. Hein.
Que voilà. Pour une raison particulière, elle n'a plus de raison d'être ou de rester musulmane.
Voilà. Bien.
Merci infiniment Agnès Defeo, merci de nous avoir expliqué tout ce que vous avez fait. Vous nous avez donné le fruit de vos travaux à propos de ce thème à l'occasion des 10 ans de la loi contre la dissimulation du visage dans l'espace public. C'était Question d'Islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Afné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jean-Michel Bernot et la réalisation est assumée par Lani Franklin. With me if you ain't got that cash. You wanna see some ass? I'll wiggle it, wiggle it, wiggle it. You gotta spin it, shit. Spin it, shit, spin it, shit. I'll wiggle it, wiggle it, wiggle it. You gotta spin it, shit. Spin it, shit, spin it, shit. Brown bag legend for these badass bitches. Got 100 racks if you going back flipping. I ain't tripping, I got that cash. On the road. Now your ass fat, you can hide from the feds behind brown bag, take a bottom and a top down. Bad bitch looking for a rich ass nigga. I'ma pull up to the club with that big bag nigga. We ain't really with that chit chat nigga. I'ma break her off like a Kit Kat nigga. Sauce on the pimp, I'm a Big Mac nigga. Huh? I'ma bounce this ass for a rich ass nigga. I'ma get a bag, oh cold ass nigga. You can't fuck with me if you ain't got that cash. You wanna see some ass? I'll wiggle it, wiggle it, wiggle it. You got to spin it, shit. Spin it, shit, spin it, shit. I'll wiggle it, wiggle it, wiggle it. You got to spin it, shit. Spin it, shit, spin it, shit. Brown bag legend for these badass bitches. Got 100 racks if you going back flipping. I ain't tripping, I got that cash. Baby, go and bounce that ass. Okay, nigga, you wanna wipe a bitch? I'ma tell you what I really like and shit. Whole lot of diamonds, icy shit. Big ass dick that could pipe a bitch. And you know that I like it when you spend a little cash. Every time I come around, you put designer in my bag. White boy sound really red. Even if I'm on my period, I'ma still let them bag. Freak bitch. Pussy so wet, I got him seasick. On me, lover, yeah, deep dish. You a married nigga, then peek this. I can keep a secret. I'ma bounce this ass for a rich ass nigga. I'ma get a bag, oh, gold ass nigga. You can't fuck with me if you ain't got that cash. You wanna see some ass? I'll wiggle it.